Le journal, Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Gabriel Attal est Premier ministre depuis 100 jours. Un chef, oui, mais pas un chef d'équipe, selon certains, vous l'entendrez. Nous reviendrons aussi sur les 100 jours dans le billet de Stéphane Robert à 8h15. N'est-ce pas qu'un mythe, finalement, dans l'imaginaire politique français ?
La Commission européenne demande des explications à TikTok sur son nouveau service TikTok Lite. Le concept, plus l'utilisateur y passe de temps, plus il est rémunéré.
Les attaques informatiques se multiplient contre Israël. Elles viennent d'Iran ou de ses alliés. Le but, la désinformation et le renseignement.
Et nous reviendrons sur les auditions au Sénat américain. 4 lanceurs d'alerte témoignent de graves problèmes de sécurité chez Boeing.
Voilà 100 jours que Gabriel Attal est à Matignon. Et le Premier ministre, le plus jeune de la 5e République, entend marquer le coup avec une interview ce soir sur BFM, un discours ce matin à Viry-Châtillon, commune de l'Essonne marquée par la mort il y a 2 semaines d'un adolescent de 15 ans passé à tabac. 100 jours après son arrivée, a-t-il réussi à s'imposer ? Qu'en est-il de son autorité personnelle ? Le point avec Rosalie Lafarge.
Chef, oui, mais chef d'équipe, non. Voilà ce qu'en dit un parlementaire haut placé avant de sous-titrer son propos. Gabriel Attal sait monter au front, expliquer qu'il dirige, assumer des décisions. Il a un peu plus de mal à la jouer collectif. Il ne laisse pas exister ses ministres, ajoute un autre pilier de la majorité à l'Assemblée, pour qui l'omniprésence du chef du gouvernement a atteint son paroxysme avec son désormais seul en scène le mercredi au Palais Bourbon. Très présent, il l'est et il l'assume. Les Français peuvent nous reprocher de ne pas en faire assez, jamais d'en faire trop, considère-t-il. Et depuis 100 jours, Gabriel Attal enchaîne les sujets. En plus de la crise agricole qui s'est imposée, le Premier ministre s'empare du travail, de la santé, du logement, faisant parfois presque oublier que ses portefeuilles ont des titulaires. Certains ont d'ailleurs pris quelques libertés ces dernières semaines, ce qui a valu à tous les ministères un petit recadrage ce week-end. Un mail du directeur de cabinet du Premier ministre s'agaçant de récentes initiatives de communication non coordonnées, non concertées et non validées par Matignon. Finalement, ce qui lui pose le plus de problèmes, ce ne sont pas les poids lourds, constate un fidèle du président. Ces poids lourds du gouvernement, Gabriel Attal a pris soin ces 100 derniers jours de les traiter, comme on dit en Macronie. Tête à tête, dîner, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, Rachida Dati, Catherine Vautrin, Nicole Belloubet y ont eu droit. Et malgré quelques accros avec Bercy ces derniers temps, aujourd'hui tout est rentré dans l'ordre, assure un conseiller. 4 séminaires gouvernementaux, de nombreux rendez-vous avec les élus de la majorité. On ne peut pas dire qu'il ne prend pas les choses à bras-le-corps, souligne encore un proche. Quand un autre ajoute, laconique, que pour ajuster tous les équilibres d'une telle équipe gouvernementale et parlementaire. 100 jours, c'est court.
Le chef du gouvernement qui veut mettre l'accent sur l'autorité partout et pour tous et devrait d'ailleurs annoncer aujourd'hui à Viry-Châtillon le lancement d'une large concertation sur la violence des mineurs souhaitée par Emmanuel Macron. Tandis qu'en Guadeloupe, face à la flambée de la délinquance, il y aura la semaine prochaine un couvre-feu à Pointe-à-Pitre pour les moins de 18 ans. Il doit durer 2 mois selon le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Gabriel Attal, auparavant ministre de l'Éducation, avait souhaité une reconquête du mois de juin au lycée. Les jeunes de seconde ont donc un stage obligatoire de 2 semaines à effectuer et c'est un casse-tête pour les parents que de trouver un lieu qui s'engage à s'occuper de leur enfant pendant une durée si longue. 500 000 lycéens sont concernés. La FCPE, Fédération des parents, alerte. Il y a encore de nombreux élèves sans solution, Wafia Kenich.
La première des difficultés, c'est tout simplement de trouver un stage. Le gouvernement a bien mis en place une plateforme pour aider les familles. Les entreprises sont assez réticentes, comme l'explique Guylaine Morvan-Dubois, administratrice de la FCPE.
En tant qu'entreprise, recevoir pendant 15 jours un stagiaire, s'en occuper, mobiliser donc des moyens humains pour encadrer des stagiaires, c'est pas évident. On a tous cette expérience déjà des stages de 3e. On a certains parents qui ont enchaîné le stage de 3e de l'année dernière et qui essayent cette année de trouver un stage 2 fois plus long pour leurs enfants et c'est mission impossible.
Ce que dénonce la Fédération de parents, c'est une nouvelle inégalité dans le parcours scolaire puisque toutes ces familles n'ont bien entendu pas le même réseau et donc pas les mêmes chances à offrir à leurs enfants. Stéphane, qui vit au Mans, a justement fait jouer son réseau. Il attend une réponse pour le stage de sa fille, mais pour l'heure, il fait face aux démarches administratives.
Faire valider la convention de stage de part et d'autre. Après retour au lycée, des délais qui prennent un peu de temps pour finalement pas beaucoup d'enjeux pour des élèves. En tout cas, ma fille allait en filière générale pour des élèves qui démarrent le lycée. Peut-être à la différence d'élèves de seconde qui sont en filière professionnelle. Là, ça peut être intéressant.
Le hic, c'est que ces stages sont à effectuer fin juin, au moment où les bacs pro sont aussi à la recherche d'une entreprise. Ce calendrier met donc les élèves de bac pro et de filière générale en concurrence sur la même période.
Les jeunes déjà accros à TikTok pourraient passer encore plus de temps sur un nouveau service du groupe chinois ByteDance. TikTok Lite, opérationnel en Corée du Sud et au Japon, est testé depuis fin mars en France et en Espagne. Mais de nombreuses voix critiquent son principe, à savoir rémunérer les utilisateurs en fonction du temps passé sur l'application. La Commission européenne s'en inquiète et réclame plus d'informations sur les risques d'addiction. Adrien Toffolé.
TikTok Lite fonctionne sur un système de récompense. Regarder au moins 25 minutes de vidéo par jour rapporte 4200 jetons. Utiliser l'application 10 jours de suite, 4500 jetons, etc. Ces gains peuvent ensuite être convertis en bons d'achat ou en chèques cadeaux, sachant que 10 000 jetons valent 1 euro. Face aux premières levées de boucliers qui ont suivi son lancement en France, en catimini il y a quelques semaines, TikTok a vite sorti sa défense. Le service est interdit aux mineurs et le système de récompense limité à 1 heure et demie de visionnage maximum par jour. Mais la Commission européenne n'a guère apprécié le fait que son propriétaire ByteDance n'ait pas fourni d'études d'impact sur la santé mentale des utilisateurs et en particulier celle des mineurs, pourtant obligatoire. Car même si l'entreprise affirme qu'elle met en place des procédures de contrôle, le risque n'est pas écarté pour Samuel Comblé, directeur général adjoint de l'association e-France.
On peut prendre pour preuve l'interdiction normalement de s'inscrire avant 13 ans sur les réseaux sociaux et notamment sur TikTok. Il n'en demeure pas moins qu'on le sait, énormément d'enfants de niveau primaire sont inscrits et utilisateurs de ces réseaux. Donc j'ai du mal à croire, d'autant plus que c'est pour gagner de l'argent, que TikTok Lite ne sera pas utilisé par les mineurs, malgré en plus les systèmes de contrôle de l'âge qui seront mis en place. D'abord, ils sont toujours contournables et je pense que l'appât du gain va certainement attirer énormément de mineurs.
TikTok a jusqu'à aujourd'hui pour rendre son évaluation à la Commission européenne. En cas d'insatisfaction, cette dernière pourra ouvrir une enquête, la deuxième en quelques semaines, puisque TikTok version normale, est déjà visée par une procédure pour infraction à la réglementation justement en matière de protection des mineurs. Avec à la clé peut-être de lourdes sanctions financières que l'UE espère persuasives pour ces géants du numérique habitués à être tout puissants.
Adrien Toffolé, 1 an de prison avec sursis et 5 ans d'inéligibilité requis hier contre le sénateur Reconquête des Bouches-du-Rhône, Stéphane Ravier, jugé pour l'embauche de son fils lorsqu'il était maire d'un secteur de Marseille. Le procureur réclame également 20 000 euros d'amende et contre le fils, il a requis 8 mois de prison avec sursis, 10 000 euros d'amende et une peine d'inéligibilité de 5 ans aussi.
8h07 sur France Culture, la suite du journal de Margot Delpierre. L'Union européenne va imposer de nouvelles sanctions contre l'Iran après l'attaque de Téhéran contre Israël le week-end dernier.
Et en attendant la réponse israélienne qui semble se préparer, il se joue une autre guerre numérique à coups d'attaques informatiques. Elle vise aussi bien les organisations gouvernementales, les hôpitaux que l'armée. Un centre de recherche nucléaire a même été ciblé. Depuis le début de la guerre à Gaza contre le Hamas, en octobre, Israël a subi 800 attaques de ce type. C'est 3 fois plus que l'an dernier sur la même période à Jera Mohammed.
La désinformation et le renseignement, ce sont les deux priorités pour l'Iran et ses alliés en lançant ces attaques informatiques. Chuck Freilich, chercheur à l'université de Tel Aviv, étudie les méthodes des hackers iraniens depuis le début de la guerre. En voici une.
Ils piègent des soldats israéliens sur des sites de rencontres avec des profils de jolies femmes qui les abordent. C'est du phishing. Ça permet à l'Iran ou à Hamas de prendre le contrôle de leur ordinateur.
Ces dernières années, l'Iran a investi en masse le terrain numérique pour atteindre l'ennemi.
Ils orientent une très grande partie des jeunes à l'université et à l'armée vers les études informatiques et les unités cyber. C'est très inquiétant pour le futur.
Mais en face, l'État israélien lui aussi met les moyens. Avira Matsaba travaille à la Direction nationale de la cybersécurité.
Nous développons en ce moment le cyberdôme, à l'image du dôme de fer qui intercepte les missiles. Lui neutralise les cyberattaque. Ce qui compte, c'est la technologie et la capacité à l'utiliser de la bonne façon, mais aussi la coopération.
Une coopération internationale entre Israël et ses alliés confrontés, eux aussi, à ce qu'Avira Matsaba appelle le cyberterrorisme.
Ajra Mohammad en Israël avec Sandrine Malon et Alexandra Vardi. Dans une actualité si tendue au Moyen-Orient, des journalistes iraniens tentent de continuer à informer leurs concitoyens. Pour travailler librement, certains se sont installés en Grande-Bretagne, mais là-bas aussi les journalistes sont des cibles. Reporters sans frontières demande aux autorités britanniques de mieux les protéger, Gwendal Lavina.
Dans son rapport intitulé « Faites attention, nous vous trouverons », RSF décrit ce que subissent les journalistes iraniens travaillant en Grande-Bretagne. 90% de ceux interrogés par l'organisation disent avoir fait l'objet de menaces en ligne ou de harcèlement ces 5 dernières années. Parfois, cela va plus loin. Fin mars, un journaliste de la chaîne Iran International TV a été poignardé à Londres et blessé à la jambe. Il affirme avoir été ciblé à cause de son travail. Adam Bailey, porte-parole de la chaîne en farsi, classée comme organisation terroriste par Téhéran.
La sécurité de nos équipes est la priorité. Nos bureaux sont très bien protégés, mais ça n'est pas facile d'arriver à travailler dans ce qui ressemble à une prison, même si c'est chaleureux à l'intérieur. Désormais, on collabore avec la police.
Difficile toutefois de déterminer précisément d'où viennent les menaces, selon RSF. Les journalistes iraniens vivent donc dans la peur. Plus largement, c'est aussi la profession qui en pâtit. Fiona O'Brien, directrice de RSF au Royaume-Uni.
Les conséquences de ces pressions sur le journalisme sont aussi énormes. Les journalistes parlent d'autocensure, arrêter temporairement ou durablement le métier, et même quitter les réseaux sociaux pour être moins exposés. Ce qui a des répercussions professionnelles importantes quand on connaît leur utilité.
RSF appelle donc les autorités à mettre rapidement en œuvre des mécanismes de protection et les réseaux sociaux à mieux contrôler ce qui est publié sur leur plateforme.
Plus de 6 mois après le début de la guerre à Gaza, les autorités israéliennes affirment de leur côté que de l'aide alimentaire passe désormais par le port d'Ashdod, dans le nord de l'enclave palestinienne assiégée. C'est une première, mais Alice Froussard, cela ne représente quasiment rien.
8 camions du Programme alimentaire mondial sont entrés mercredi dans la bande de Gaza depuis le port d'Ashdod. Voilà ce qu'indique l'armée israélienne qui en fait une opération de communication sur ses réseaux sociaux avec des photos des véhicules chargés de sacs de farine empilés les uns sur les autres, prêts à traverser via le passage de Kerem Shalom. Début avril, Israël s'était engagé à utiliser ce port pour livrer de l'aide aux territoires palestiniens assiégés. Mais ces 8 camions seront bien loin d'inonder Gaza d'aide, comme voulait le faire croire Yoav Gallant, ministre de la Défense. Les ONG internationales humanitaires dénoncent toujours des restrictions, des obstacles logistiques et sécuritaires dans l'acheminement de l'aide à Gaza. La situation est toujours catastrophique, les habitants manquent d'eau, de nourriture, de soins. Et si l'armée affirme que 553 camions sont entrés ces derniers jours, l'ONU l'assure, cela reste insuffisant et bien en deçà des capacités opérationnelles des postes frontières.
Ashdod, au nord de Gaza, est démantelé l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens qui se trouve dans la tourmente, risquerait d'accélérer la famine dans l'enclave et de condamner une génération d'enfants au désespoir, a mis en garde son patron hier. La sécurité est-elle encore une priorité chez Boeing? C'est la question posée en substance par une commission d'enquête du Sénat américain qui a commencé hier ses auditions. 4 actuels ou anciens salariés ont donné l'alerte sur les 737 MAX, les 787 Dreamliner et les 777. On se souvient d'ailleurs de cette porte arrachée après le décollage d'un 737 MAX d'Alaska Airlines, c'était au mois de janvier. Il pointe de graves problèmes de production sur les appareils. À Washington, Sébastien Paour.
Sam Salepour est ingénieur qualité chez Boeing depuis 17 ans et il témoigne malgré les pressions qu'il dit avoir reçues. Je suis ici aujourd'hui parce que je ne veux pas voir le 787 ou le 777 s'écraser. J'ai de sérieuses inquiétudes quant à la sécurité des 787 et 777 et je suis prêt à prendre des risques professionnels pour en parler. Il décrit par exemple des raccourcis de fabrication sur le 787, des inspections pas assez nombreuses qui peuvent faire baisser la sécurité des avions. Ce que j'essaye de dire, c'est que l'attitude de Boeing au plus haut niveau consiste malheureusement à utiliser des pièces défectueuses, quelles qu'elles soient. Ed Pearson a lui été l'un des responsables du programme 737 MAX chez Boeing. Il estime qu'il n'est toujours pas sûr et il ne mâche pas ses mots pour être entendu. À moins que des mesures ne soient prises et que les dirigeants ne soient tenus pour responsables, chaque personne qui monte à bord d'un Boeing court un risque. L'avionneur dément que 1400 de ses appareils comportent des failles de sécurité. Ses responsables seront appelés à témoigner lors de prochaines auditions.
Sébastien Paour. Le temps aujourd'hui en France sera plutôt sec et ensoleillé, sauf dans l'Est où on attend des averses parfois orageuses. 9 degrés, pas plus à Strasbourg cet après-midi, 12 à Lille et Auxerre, 13 à Paris et Cherbourg, jusqu'à 15 degrés à Nice et Montpellier.